Le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, c'est le jeu. Et pour parler du jeu, j'ai invité Véronique Dazen, qui est archéologue, professeure à l'Université de Fribourg en Suisse. Je la rencontre au château de Fontainebleau, dans un cadre magnifique, dans le cadre du Festival de l'Histoire de l'Art, organisé par le château de Fontainebleau et par l'Institut National de l'Histoire de l'Art. Véronique Dazen, bonjour et merci de répondre aux questions de RFI.
Bonjour.
Alors, vous venez de sortir un livre aux presses universitaires de Liège, « Le jeu comme métaphore », c'est le titre du livre, « Images ludiques de la Grèce ancienne ». Vous avez lancé plusieurs initiatives qui concernent le jeu, en particulier une initiative européenne. Vous êtes à la manœuvre d'une initiative qui s'appelle « Locus Mundi », qui dure depuis quelques années, qui consiste à réhabiliter un petit peu et tracer un peu l'histoire du jeu depuis l'Antiquité à nos jours. Véronique Dazen, pourquoi est-ce qu'on a inventé le jeu et que représentait exactement le jeu chez les Grecs et chez les Romains ?
Alors, il est très intéressant de constater que les anciens ont élaboré un discours sur l'invention des jeux. Pour eux, c'est une invention très importante et qu'on va trouver soit dans des listes d'inventions, d'autres technées, hein, d'autres pratiques qui sont spécialisées, et notamment chez Hérodote. Hérodote, lui, c'est dans un récit narratif où il explique comment le jeu, et c'est une constante dans toutes ses descriptions, est en fait inventé comme remède. C'est quelque chose qui vient, c'est une activité qui vient soulager une communauté ou des individus dans un moment de difficulté. Et cette difficulté, cette crise, peut-être politique, peut-être sanitaire, il y a une épidémie, ou même aussi environnementale. Et ça nous interpelle beaucoup, bien sûr, parce qu'on voit aujourd'hui combien on joue et dans quelle situation on se trouve, aussi de crise à tout point de vue.
Et donc pour les Grecs et les Romains, jouer, c'était un petit peu une forme de thérapie, c'est ça ?
Exactement, une forme de thérapie. Alors chez Hérodote, il place un récit en Asie mineure, dans le royaume de Lydie, pour nous expliquer que ce royaume connaît une grande disette, une famine. Et pour pallier à cette disette, comme cette famine ne s'arrête pas et que les gens souffrent, les jeux sont inventés. Les jeux de balles, les jeux d'osselet, sauf, dit-il, les jeux de plateau, on y reviendra, parce que c'est les Grecs qui vont inventer les jeux de plateau. Et ainsi, les Lydiens vont jouer un jour sur deux, et donc un jour sur deux, oublier qu'ils ont faim.
Quels sont les premiers jeux dont nous avons des traces aujourd'hui ? Alors je sais que ce n'est pas la Grèce et Rome, c'est plutôt le Moyen-Orient, le Proche-Orient ancien. Mais alors quels sont les jeux les plus anciens que nous avons aujourd'hui ?
Alors la difficulté, c'est de les identifier comme objet ludique. Il ne suffit pas, par exemple, de trouver un osselet pour se dire qu'on a trouvé une scène, un moment de jeu en ancienne Égypte. Il faut qu'il y ait un contexte, un assemblage qui nous permette de l'identifier comme tel. C'est pour cela que les plus anciens jeux identifiés sont des jeux de plateau, où là on a une structure sur une surface gravée qui permet d'identifier une activité structurée, ludique. Et les plus anciens jeux de plateau que l'on connaisse datent du 3e millénaire. On en trouve en Mésopotamie, en Égypte ancienne. Et en fait, ils suivent tous un peu la même structure. C'est des jeux de poursuite, des jeux aussi de capture. Et la métaphore qui est déjà présente, c'est celle soit de la chasse, soit de la guerre. Et ça, on va le retrouver aussi en Grèce ancienne et dans le monde romain.
Le jeu comme substitut à la guerre ou le jeu qui remplace la guerre ?
Les deux. Les deux. Les anciens, Sophocle ou d'autres, vont évoquer le plateau de jeu auquel s'adonne, par exemple, Achille et Ajax, sur plus de 200 vases en Grèce ancienne, comme étant l'image en bois du champ de bataille. Mais, ajoute-t-il, c'est un champ de bataille pour deux amis, pas deux ennemis. Donc c'est un entraînement. En fait, c'est un entraînement à la stratégie, c'est un entraînement à la guerre, mais c'est aussi un entraînement à toutes sortes de qualités que développe le jeu, comme le fair play, apprendre à gagner ou à perdre, surtout à perdre, à contrôler ses émotions.
Est-ce qu'on peut dire que le jeu est une affaire d'homme? Parce que la guerre, c'est une affaire d'homme pour les anciens.
La guerre est une affaire d'homme, mais pas que. Hein, les femmes y sont bien impliquées aussi. Pour les jeux de plateau, une des conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est que notre vision est faussée par l'utilisation d'un média plutôt qu'un autre. Si on regarde les vases grecs, par exemple, on ne voit que des guerriers en train de jouer à ce fameux jeu de plateau Kelpentegrammai, qui est un jeu extrêmement subtil, stratégique, mais aussi en lien avec l'apprentissage du comptage, on y reviendra. Mais c'est une image idéologique de montrer ces deux guerriers ainsi. On montre deux chefs de guerre capables de se concentrer, qui se connaissent par cœur, parce que c'est ça que permet le jeu. Hein. On apprend à connaître celui avec lequel on est actif. On apprend à connaître ses émotions, sa manière de réagir en situation de difficulté. Et c'est ça, c'est le message qu'on veut faire passer. En réalité, si on va du côté de l'archéologie, on découvre des tombes de femmes de la même époque qui ont des dés, qui ont des pions, et donc étaient aussi des joueuses. Mais on ne les montre pas. D'où l'approche de mon projet européen, qui est une approche pluridisciplinaire, croisant des sources différentes, les sources écrites, archéologiques, iconographiques, pour tenter d'approcher la réalité antique, qu'on n'aura jamais, mais disons, de ne pas se laisser tromper par une catégorie de sources.
Donc les femmes pratiquaient le jeu, mais en cachette, j'ai bien compris. C'était un peu caché, c'était un peu honteux.
Je pense pas que c'était honteux, non. En tout cas pour les jeux de plateau, c'est pas du tout honteux. Mais c'est pas ce que le médium du vase de banquet, entend promouvoir. Donc on va montrer d'autres sortes de jeux de filles, mais pas celui-là. Mais il n'y a aucune raison de penser que c'était un jeu honteux à pratiquer entre femmes. Et une idée reçue que nous avons déconstruite, c'est que les femmes n'ont pas l'esprit de compétition, donc on ne les montre pas dans des activités agonistiques, en dehors de celle du sport, évidemment, parce que le jeu, c'est aussi un agone, c'est aussi une compétition.
Agonistique, on pourrait expliquer.
Alors, agonistique vient du grec agone, qui signifie la compétition. Et communément, c'est vraiment une idée reçue. On avait l'impression que les femmes sont exclues de cette sphère-là, voire même n'ont pas l'intérêt de s'y mettre. En réalité, bien sûr que non. Et nous avons pu mettre le doigt sur beaucoup d'activités de type compétitif exercées par les femmes. On les voit prendre des risques, on les voit parier de l'argent, mais il faut pour cela croiser différentes sources pour les faire apparaître, comme toujours.
Et est-ce que, parce que là vous parlez des adultes, vous parlez des hommes et des femmes, et les enfants dans tout ça, le jeu à l'origine, enfin, je pensais que le jeu était avant tout destiné aux enfants, avant tout destiné à amuser les enfants.
Alors c'est bien plus qu'amuser les enfants, et effectivement le jeu est chevillé à l'idée d'enfance et d'éducation en Grèce surtout. C'est contenu dans le verbe paidzain, jouer, qui est articulé à celui de païs, qui veut dire l'enfant, et paideia, qui veut dire l'éducation. On joue pour apprendre, on joue pour se développer aussi, apprendre les normes sociales, puisque c'est le premier contrat social quelque part. Deux individus jouent ensemble, ils décident ensemble de règles, on s'y conforme et on a un moment de plaisir ensemble. C'est comme dans la société. Et donc Platon aura dans sa République toutes sortes d'élaborations sur ce thème en disant que si on veut qu'un enfant devienne un bon architecte, il pense au garçon bien sûr, son modèle c'est le garçon, il faudra lui permettre de s'amuser à construire des maisons, c'est ainsi qu'il va devenir plus tard le bon architecte. La même chose s'il veut devenir un chef de guerre et d'autres métiers qui sont des métiers masculins.
Et donc, le jeu pour les enfants est une forme d'apprentissage, c'est un peu l'école.
C'est ça.
C'est un peu toujours le cas aujourd'hui.
Oui, et même chez les Romains, puisque le terme ludus, c'est la différence entre les Grecs et les Romains. Dans le monde grec, on sépare très clairement l'univers du sport qui concerne les meilleurs dans un cadre compétitif mais institutionnel. Les cités ont leurs champions qui sont entraînés de manière très sérieuse à gagner puisqu'ils auront les honneurs de toute la cité et ils seront couronnés par un prix. C'est Atla qui va donner athlétisme. Ça c'est le sport, c'est les vrais Jeux olympiques puisqu'il y a des concours qui sont après même panhelléniques à travers toute la Grèce où les meilleurs s'affrontent. Et à côté, il y a justement les Paidia, les Jeux qui sont libres. On peut jouer avec qui on veut, quand on veut. Un garçon, une fille, un esclave, un citoyen. Il y a une grande liberté de lieu, d'espace et pas de prix. Pas de prix. Et donc pour le grec, c'est deux univers. Tandis qu'en latin, le terme ludus va comprendre à la fois les jeux domestiques, signifie aussi l'éducation.
Ludus qui a donné ludique.
Oui, mais va donner aussi l'école. Ludus signifie aussi l'école. Ça peut nous paraître paradoxal que l'école soit désignée par le même terme que le jeu, mais on a cette notion aussi d'apprentissage qui est connectée aux deux. Et les ludi publici, c'est les jeux du cirque. Et donc c'est là que se passe la fusion entre le jeu domestique, privé, et le jeu public, comme les jeux des gladiateurs et du cirque. Et c'est ça qui va donner nos Jeux olympiques, nos Olympische Spiele, qu'en grec ne pourrait absolument pas comprendre, parce que c'est deux concepts différents.
Et donc, vous avez dit que le jeu servait à l'apprentissage du calcul. Quel rapport entre le jeu et les chiffres ? Il y avait des jeux spécifiques, je suppose.
Alors, c'est une des découvertes du projet. En travaillant sur ce jeu de cinq lignes qui s'appelle le pentagramma, et c'est comme ça que nous l'appelons, les anciens disent simplement que c'est un jeu composé de cinq lignes, que la ligne du milieu est la ligne sacrée, qu'on fait déplacer ses pions dans une sorte de course. On est vraiment dans ce schéma-là du jeu de poursuite, mais avec deux dés. Et en fait, au cours des recherches, nous sommes tombés sur un relief magnifique, un relief funéraire marquant la tombe d'un homme qui s'appelait Phanaios. On a juste son nom qui veut dire celui qui apporte la lumière. Et on y voit un homme barbu, assis, de profil, sur un siège, pointant du doigt sur un bloc posé devant lui, un demi-cercle à la fin de ces cinq lignes.
Pardon, on est où là ?
On est en Grèce du Nord, on est Grèce centrale, on est à Kranon, une cité qui était prospère, et aujourd'hui le matériel est conservé dans le musée de Larissa.
Et quelle époque ?
On est fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, cet homme qui est assis, qui pointe du doigt ces cinq lignes, a auprès de lui un jeune garçon qui lui regarde son chien. Donc ils ne sont pas à s'occuper beaucoup de ce que fait cet homme. Il ne s'agit donc pas du tout d'une scène de jeu, puisqu'il n'y a pas d'interaction entre l'un et l'autre. Et une recherche menée avec un mathématicien, Jérôme Gavin, a permis de comprendre qu'en fait, on avait là la première leçon de mathématiques illustrée de l'histoire. On avait là un monument funéraire en l'honneur d'un prof de maths avec son élève. Et cet homme qui est assis sur son siège pointe du doigt un demi-cercle qui est au bout de ses cinq lignes. Et ça, c'était la résolution d'une longue énigme. Jusque-là, il y avait deux clans parmi les chercheurs. Il y avait ceux qui avaient rassemblé tous ces blocs errants, souvent errants, c'est-à-dire gravés par terre et on ne sait pas dans quelle est leur orientation, qui ont cinq lignes. Et certains disaient, il y a donc deux clans, un clan disait « tout ça c'est des abacs, ça sert à compter ». Et l'autre qui disait « tout ça, c'est des jeux de cinq lignes ». Et nous, ce qu'on amène comme regard différent, c'est de dire « c'est les deux ». C'est-à-dire que ces cinq lignes peuvent servir tant à jouer qu'à compter. Puisque sur cet abac, qu'on connaît sous cette forme jusqu'à la première modernité...
Pardon, abac, ça veut dire ?
Un abac, c'est une surface, un plateau sur lequel on peut compter avec des cailloux. Ou comme disent les Anglais, des counters. Et c'est resté cette ambiguïté dans l'anglais, puisqu'en counter, où ça sert à la fois à compter et à jouer. C'est les calculi des Romains. Calculus, c'est le jeton, le pion, et c'est en même temps ce qui permet de compter sur une ligne.
Alors, en français, on dit un comptoir.
Voilà, oui.
On peut.
En grec, on parle de ces tables de, comme trapeza, qui va donner en grec moderne le mot banque.
D'accord.
Donc on a contiguïté entre les deux. Et en deux mots, donc sur ces lignes, chaque ligne, on a cinq lignes, on est dans un système à base décimale. Donc la première ligne, c'est l'unité. C'est là qu'on va, on va compter jusqu'à 5. Après, on réduit quand on a 5, on atteint la valeur 5. Et on la réduit à un élément entre deux lignes et on continue comme ça plus loin. On a ainsi un outil d'apprentissage particulièrement subtil qui nous renvoie à notre réalité aussi, c'est-à-dire un apprentissage ludique des mathématiques. Un espace sur lequel on peut faire des opérations de calcul, c'est-à-dire des additions, des multiplications, des soustractions, sans peine. Avant l'introduction des fameux chiffres indo-arabes, mais ils arrivent vers le 11e siècle et ils s'imposent pas avant le 15e en Europe. Jusque-là, on compte comme le font les Grecs et les Romains, à l'aide de ce plateau, cet abac, et on a des représentations de la Renaissance qui sont tout à fait identiques à celles de ce plateau qu'on a découvert en Grèce. Et actuellement, nous avons une opération qui se déroule au Musée suisse du jeu, en Suisse, où il y a une exposition qui s'appelle « De la case au pixel, archéologie du jeu vidéo », notre première
à
étape
Fribourg.
à la Tour de Paix en Suisse romande, au bord du lac Léman. Et là, nous avons reconstitué à la fois le système de calcul des anciens à partir de ces cinq lignes et la reconstruction aussi du jeu des cinq lignes en l'introduisant dans les écoles. Donc là, nous sommes en train de tester auprès des écoles, des maîtres de primaire, comment fonctionne ce mode d'apprentissage-là où on retrouve la matérialité du calcul. C'est ça qui nous semblait très important, c'est de faire créer une passerelle entre cette matérialité du calcul et l'abstraction que va apporter les chiffres indo-arabes, que tous les élèves ne peuvent pas intégrer facilement.
Si je vous dis, dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es. Est-ce que les Grecs et les Romains jouaient au même jeu? Est-ce qu'ils avaient des jeux typiques? Je ne sais pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui joue à la pétanque, c'est quelqu'un qui vient du Sud, même s'il vient du Nord. Il y a des jeux comme ça associés à des nationalités, à des identités. Est-ce qu'il y a un aspect, si j'ose dire, identitaire au jeu?
Tout à fait. Alors, il y a d'une part des jeux qui vont traverser les siècles, mais en même temps qu'ils traversent les siècles, les sociétés se transforment aussi. Les jeux d'Oslay n'ont pas cessé d'exister, mais ils varient, ils vont se diversifier, les règles changent. Même dans l'Antiquité grecque ou romaine, on a un jeu qui va suivre des règles différentes selon les régions, voire selon les familles, hein, comme aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. D'autre part, effectivement, il y a des jeux identitaires. Un exemple, c'est le jeu du cerceau. Alors déjà, le cerceau, en Grèce ancienne, n'est joué que par les garçons. Aucune fille ne joue au cerceau. C'est un des accessoires du gymnase. C'est ça, c'est l'accessoire qui, dit-on, les médecins en parlent, permet d'avoir un corps harmonieux, équilibré. C'est le corps du beau garçon et le modèle mythologique par excellence, c'est celui de Ganymède, qui est si beau que Zeus l'enlève et en fait les chansons des dieux sur l'Olympe. Alors, les images de garçons qui jouent au cerceau sont nombreuses dans l'art grec. On les trouve aussi dans l'art romain, mais là, on montre un jeune romain qui s'exerce à la grecque, donc qui manifeste son philhellénisme. Il est romain, mais il s'entraîne à la grecque.
Et quels sont les jeux typiques des Romains? Enfin, à quel était le jeu qui les caractérisait le plus?
Alors, il y a bien sûr le jeu des latroncules parmi les jeux de plateau, mais qui existe déjà en Grèce ancienne, qui s'appelle Polis, le jeu de la ville. C'est un peu un sort de jeu de go, si on voulait faire une comparaison, ou un jeu de dames. Et dans le monde romain, c'est celui qui est très présent, de même que c'est le jeu des duodecim scripta, qui est l'ancêtre du backgammon.
Duodecim scripta.
Des 12 lignes, parce qu'on a trois rangées, on a des rangées de lignes de où les pions se circulent, donc on a un plateau organisé, structuré en trois sections, et donc c'est le jeu des 12 lignes ou 12 points, il y a différentes façons de le traduire, et celui-ci est particulièrement populaire dans le monde romain. On le trouve même sous une forme alors récupérée, transformée dans les, comme plaque de Loculus dans les catacombes. Vous savez, dans les catacombes, on a des espaces où on va déposer une urne. Et dans ces espaces, pour les fermer, on met une plaque. Et on avait bien vu qu'il y avait certaines de ces plaques qui semblent être comme des fragments de ce fameux jeu des 12 lignes. Et jusque-là, on se disait, ben voilà, on a cassé un plateau de jeu pour fermer ce Loculus. Et récemment, Ulrich Schaedler a publié un très joli article où il montre que pas du tout. On a fait, à la manière d'un fragment de ce parcours des 12 lignes, on a fait une plaque de Loculus avec une dimension à nouveau métaphorique. Donc le jeu est bon à penser. Et là, en l'occurrence, à penser les âges de la vie. On a des auteurs anciens comme Isidore de Séville qui va dire que chacune de ces trois pistes représente un âge de la vie. Donc l'enfance, l'adolescence, la maturité, etc. Et donc ce plateau brisé, qui ne contient qu'un fragment d'une première ligne, peut dire l'enfance, symboliquement, et là, l'enfance interrompue, et ça nous renvoie à d'autres métaphores de la vie comme étant un jeu, hein, le jeu de la vie.
Il y a donc un côté très, très symbolique dans le jeu. Est-ce que le jeu servait aussi, comme nos tarots modernes, est-ce que le jeu servait à faire de la divination, à faire des prédictions, à tester le sort, à prédire l'avenir peut-être?
Alors à nouveau, le terme de jeu est très, très large, hein, et englobe toutes sortes d'activités. Le jeu de plateau en est une, il y a les jeux d'osselet donc, que j'ai évoqués, il y a les jeux de dés, autant de jeux pour cette catégorie-là, qui ont affaire à la fois avec l'adresse physique pour ce qui est de l'osselet, par exemple. On pourra en reparler aussi concernant la différence entre les Grecs et les Romains. Les Grecs sont une société à osselet et les Romains sont une société à dés. Bon, on pourra y revenir parce que ça induit après d'autres pratiques. Et dans toutes ces activités-là, là je me réfère à une autre grande dame, Roberta Maillon, qui dont le terrain d'étude était la Mongolie, les Bouriates. Et chez elle, dans son monde à elle, le jeu vraiment participe d'une attitude positive face à la vie. C'est une façon de se propitier l'avenir. Pas d'essayer de projeter l'avenir, de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est plutôt d'avoir une posture active par rapport à ce qui va venir. Et c'est la même chose dans l'Antiquité. Ça m'a beaucoup frappé. Les anciens ne sont pas fatalistes, même si, quand on lance les dés, et ça revient dans la tragédie, chez Sophocle et d'autres auteurs, on va dire les dés de Zeus tombent toujours juste, ou les dés d'Arès vont décider de l'issue du combat. C'est une chose. Donc, quand on voit nos deux soldats qui s'adonnent au jeu de Pentegramaï et qui lancent leurs dés, ils vont accepter le coup qui a été lancé. Mais, et ça c'est Platon et d'autres philosophes, la vraie philosophie derrière tout ça, c'est qu'il faut savoir, comme humain, faire le meilleur du coup qu'on a lancé. C'est-à-dire on accepte à la fois les coups du sort qui nous arrivent, puisque la vie est faite d'une succession de catastrophes, comme tout le monde sait, mais il faut savoir en tirer le meilleur. Et c'est là notre liberté, c'est d'en faire le meilleur. Et c'est ça ce que se transmet aussi comme philosophie, ces scènes de jeu.
Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin. Vous avez dit que les Grecs étaient des joueurs d'osselet. Expliquez un petit peu aux auditeurs que ça consiste en quoi exactement les osselets.
L'osselet est un univers de sens. Et en fait, c'est un petit os qui est issu de la patte arrière, c'est l'os du tarse, qui est issu de la patte arrière des capridés, notamment des mammifères, mais surtout des capridés, donc la chèvre, du mouton, des animaux qu'on sacrifie. Et il est à l'articulation de la jambe, c'est ça qui va lui permettre de courir, de sauter, donc il y a toute une... Enfin, c'est le talon d'Achille, enfin, même chez l'être humain, ça se présente tout à fait autrement. Ce petit os a quatre faces. C'est un os irrégulier. Chaque face est différente. Il y en a deux larges, deux étroites, et chacune est distincte. Il y a un ventre, un dos, il y a tout un vocabulaire qu'on utilise, imagé. Hein. Et avec habileté, c'est pour ça que je dis, c'est un jeu aussi d'habileté, si on sait bien le lancer, on peut le lancer et obtenir la face étroite au-dessus ou la face large. Et comme chaque face a un symbolisme, qu'on peut en lancer jusqu'à quatre, par exemple, il y a le fameux coup dit de Vénus, c'est quel coup chanceux, on lance quatre osselets et chaque face retombe sur une autre face. Ça arrive. Hein. Statistiquement, on y arrive toujours, hein, à force d'essayer. Et c'est là, de nouveau, la philosophie des anciens, c'est que c'est comme dans la divination, quand on n'a pas obtenu le coup qu'on veut, c'est pas grave, ou pas obtenu l'oracle qu'on veut, c'est pas grave, on refait la demande, on refait le coup. C'est aussi une autre philosophie. Et donc, il n'y a pas seulement l'interprétation, qui est une liberté aussi. Donc, pour revenir à la... ça, c'est contigu avec la divination, jouer... Dans le monde antique, c'est vraiment manifester cette attitude de négociation aussi avec le monde divin. Quand on veut, c'est pas tirer un oracle, mais c'est communiquer avec le monde divin. Les anciens, quand ils vont même consulter la Pythie, ils reviennent avec un oracle et c'est toute la communauté qui délibère de comment est-ce qu'il faut l'interpréter.
C'est aussi un jeu d'adresse. En s'entraînant, ouais. On arrive à...
C'est ça.
À obtenir le résultat qu'on veut.
C'est ça, exactement. Et ça, c'est le monde grec. Et il faut savoir qu'aussi, le monde grec a une caractéristique, c'est des communautés unies par une autre pratique, et celle du sacrifice. Et les animaux qu'on sacrifie sont ceux qui donnent justement ces osselets. Donc après avoir tué l'animal de manière collective, on va le dépecer, on va le griller, partager les viandes. Et dans ce moment-là, qui est un moment de communication aussi avec le divin, puisque c'est pour apaiser les dieux, c'est les propitier, c'est à ce moment-là qu'on va sortir les osselets, qui ont une sorte de valeur ajoutée, puisque c'est un artefact naturel qui a été obtenu par le sacrifice. Et là, les Romains fonctionnent tout à fait autrement. Donc pour eux, l'osselet a aussi cette valeur-là de substitut de l'animal sacrifié. On a par exemple des tombes où on a jusqu'à 300, 500 osselets, et on se pose toujours la question de leur sens. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Un enfant qui a beaucoup joué, beaucoup gagné, qui a eu beaucoup de copains, chacun est venu déposer un osselet, ou ça représente le troupeau, la richesse de son père, ou ça représente tous les animaux qu'on aurait pu sacrifier au moment de sa mort. Il y a beaucoup de strates différentes.
Mais que je comprenne bien, l'osselet du jeu provient nécessairement d'une bête sacrifiée. C'est pas n'importe quelle bête, c'est pas chez le boucher, on va pas chercher des osselets chez le boucher.
C'est ça, et c'est ça qui fait la différence. Dans le monde romain, on a aussi bien sûr la pratique du sacrifice, mais elle se déroule autrement. Et les Romains, puisqu'on a fait des terrains, hein, donc là il y a un terrain vraiment fait de récolte de tous les objets ludiques possibles par case studies, hein, par étude de cas, donc Grèce du Nord, sur l'Agora d'Athènes, on trouve énormément d'osselets, très très peu de dés. C'est ce qui permet de dire que c'est une société à osselets qui est aussi utilisée comme générateur de hasard, même si
de la Grèce là.
Pour la Grèce. Et dans le monde romain, le terrain qui a été fait révèle l'inverse. À Pompéi, par exemple, il y a une dizaine d'osselets et des presque centaines de dés.
Donc, pour résumer, les Grecs étaient des joueurs d'osselets et les Romains des joueurs de dés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous reprendrons notre conversation sur le jeu dans l'Antiquité dans la deuxième partie demain. Merci Véronique Dazen. Cette émission a été réalisée par Eva Piedel. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.